France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invité, philosophe et sociologue, a choisi d'évoquer celui qui est lui aussi philosophe et sociologue. Et de lui d'évoquer un texte court d'à peine 70 pages, écrit en 1968, au titre pas forcément engageant, la technique et la science comme idéologie, mais dont la portée va vous épater. Lui, c'est Jürgen Habermas.
J'ai toujours été convaincu qu'il y avait une dimension cognitive dans la procédure démocratique. C'est pourquoi je suis l'un des premiers et des plus vigilants défenseurs de la démocratie délibérative. Et la démocratie délibérative amène évidemment au deuxième enjeu majeur de mon travail, la rationalité communicationnelle. J'ai toujours été convaincu qu'il existe dans la vie communicative quotidienne, dans la communication quotidienne aussi, une sorte d'encouragement à donner des raisons, à donner des réponses aux questions « Pourquoi as-tu dit ça ? Pourquoi as-tu fait ça ?»
Bonjour Dominique Méda.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe et sociologue, je l'ai dit, professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine PSL et présidente de l'Institut Veblen. On dit bien Veblen ?
Oui, tout à fait.
Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages collectifs ou écrits seuls sur le travail, notamment sur l'écologie aussi. Votre dernier livre s'intitule Une société désirable, comment prendre soin du monde. C'est paru aux éditions Flammarion, mais aussi France Culture, puisque c'est un recueil de vos chroniques que vous avez tenues ici. Alors je dis tout aux auditeurs et aux auditrices, vous avez beaucoup hésité, mais finalement vous avez choisi Habermas, Jürgen Habermas qu'on vient d'entendre. Pourquoi ?
J'aurais pas dû hésiter en fait, parce que c'est vrai que c'est un texte qui m'accompagne depuis très longtemps. Il m'accompagne depuis le début des années 90. Je vous raconte un tout petit peu ma vie.
Ah ben oui, allez-y, vous êtes là pour ça. Hein.
Pas trop non plus. Mais en fait, j'ai eu une culture de philosophie très classique.
Vous avez fait l'école normale supérieure.
Oui, et j'ai passé l'agrégation de philo. Et donc, j'avais une culture très classique. Aristote, Spinoza, Rousseau, Hegel, etc. Et très concentré. Et mon intérêt était très concentré sur la question de la politique. Et j'admirais énormément la démocratie athénienne, avec j'en connaissais toutes les limites, hein. Bien sûr, l'exclusion des femmes, des enfants, etc.
Esclaves.
Des esclaves, évidemment. Mais donc, j'adorais cet idéal d'une cité. Hein, Aristote dit bien, l'homme est un animal politique, il est fait pour vivre en cité, et il a la parole. Et donc, cette importance extrême de la politique m'avait énormément marqué, et cet intérêt pour la politique, il va se poursuivre très 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 longtemps, hein, jusqu'au moins 18e siècle, ça, la modernité. Après, on aura Benjamin Constant, etc. Voilà. Et puis, quelques années après, je rentre à l'ENA, et là, je découvre un monde qui est notre monde moderne, qui n'a rien à voir avec l'importance accordée à la politique, à la cité, à la parole, etc. Je découvre un monde, alors on a un corps professoral qui a un corps de praticien, de professionnel, qui vient en quelque sorte nous déverser, alors j'allais dire ses croyances, ses convictions, ses recettes.
Déjà, le mot déverser n'est pas très valorisant.
Non, c'est pas gentil. Non, mais
voit dans quel état d'esprit vous arrivez.
J'ai un choc,
en fait.
j'ai un énorme choc parce que voilà, je viens avec tout un ensemble de cultures, de culture occidentale, avec tout ce que je vous ai dit, et puis j'arrive dans un monde où ce qui compte, c'est l'économie, la croissance, le taux de croissance, la compétitivité. Déjà à l'époque, aujourd'hui, on n'entend que ça.
On était à quelle époque à ce moment-là ?
Alors, j'étais à l'ENA entre 87 et 89, dans une promotion qui s'appelait Liberté, Égalité, Fraternité. Et donc là, j'ai un choc majeur et je me prends l'envie de comprendre comment on a pu basculer dans un monde qui a finalement effacer la discussion politique, la délibération politique, ce qui était un idéal donc dans l'Antiquité et plus tard, et comment on est passé à une société, en effet, qui est complètement réglée pour augmenter perpétuellement son taux de croissance. Et c'est là, alors je sors de l'ENA, je rentre à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, un corps vraiment passionnant, très intéressant, et je me mets, le soir, à aller suivre des cours. Alors je crois, je me souviens plus bien, parce que c'était quand même il y a longtemps.
Donc à la fin des années 80, début 90.
Exactement, et là, il y a dans les sous-sols du ministère de la Recherche, un séminaire qui est animé par Tony Negri et Jean-Marie Vincent sur le travail, la science.
Donc dans les sous-sols, hein.
Dans les sous-sols.
C'est marrant, c'est comme des sociétés secrètes, en
fait. Exactement, ouais. Et donc je vais là, et puis c'est à ce moment-là que je lis Marx, j'avais pas beaucoup lu Marx, je lis Marx, et je découvre tous les travaux de l'école de Francfort. Et pour moi, c'est une... Ça m'explique, ou ça m'aide un peu à comprendre l'ampleur du basculement qui s'est opéré, et puis pourquoi ce basculement s'est opéré.
Et c'est là où vous découvrez donc Habermas.
Et c'est là que je découvre Habermas.
Mais juste une petite question, peut-être un peu indiscrète, Dominique Méda, mais pourquoi avez-vous voulu faire l'ENA ?
Parce que je trouvais que là, j'avais énormément aimé la philosophie, je trouvais que je tournais un peu en rond.
Ah, trop théorique?
Non, pas trop théorique, mais trop tournée vers l'histoire de l'histoire de la philosophie.
Donc, pas assez dans la création de concepts ou dans la proposition ou l'action?
Non, moi j'avais envie de comprendre comment fonctionnait le monde et comment j'allais pouvoir le changer.
Donc, d'où l'ENA, déception puisqu'effectivement on ne propose pas tant des moyens de changer le monde que de s'y conformer et de le poursuivre.
Absolument, tout à fait.
Et donc, dans un certain
voilà.
sens.
Et donc à partir de là, je vais d'une part faire mon métier, hein, c'est-à-dire on va contrôler des hôpitaux, réfléchir sur l'emploi, l'ANPE, etc. Et d'autre part, je vais engager une réflexion, un travail, parce que j'ai envie de comprendre pourquoi l'économie a pris cette place.
Alors là, Habermas intervient à quel moment ? Parce qu'effectivement, je l'ai dit, ça vous a fait rire, le livre d'Habermas, en fait, c'est un texte qui fait partie d'un recueil d'articles.
Oui.
C'est le premier article, c'est le plus long.
Oui.
Il a un titre qui donne son titre à ce recueil-là. Et je l'ai dit, c'est un titre pas très engageant, ça s'appelle... non, mais la technique et la science comme... En plus, il y a des guillemets. Comme... idéologie.
Oui.
Alors, ce titre, qu'est-ce qu'il veut dire ? Je le précise, ce texte, il a été écrit en 1968.
Oui.
Il a été écrit en hommage à Herbert Marcuse, donc de l'école de Francfort, qui avait écrit L'homme unidimensionnel en 64. Et on sent que Habermas, à la fois, lui rend hommage, mais en même temps, veut aller plus loin que Marcuse.
C'est exactement ça. C'est un texte fascinant. Je le trouve assez facile.
Précisez pourquoi vous dites assez facile.
Mais par rapport à d'autres textes d'Habermas qui seront très, très difficiles à comprendre, là, celui-là est assez facile. L'idée majeure, donc, il reprend la thèse de Marcuse et la thèse de Weber, c'est-à-dire qu'avec la modernité, on a eu une extension de la rationalité en finalité, ou la rationalité selon les fins. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne raisonne plus par rapport à la tradition et à des valeurs, on n'a plus de discussion sur les fins et sur les valeurs. Les fins sont assurées, on sait qu'il faut avoir toujours plus de croissance, et on va essayer d'être le plus efficace possible et d'atteindre le plus efficacement ces buts-là. Et une des thèses d'Habermas, c'est qu'on se trouve à un moment, donc on est en 68, où la science et la technique sont devenues les forces productives majeures. Il dit on n'a jamais été dans ce cas. Et au lieu de discuter sur ce qu'on va faire de ces forces, eh ben en fait... on ne discute absolument plus sur les fins et on va droit devant et on essaye de les augmenter toujours plus.
Quand vous découvrez donc ce texte dans les sous-sols du ministère, Dominique Méda, vous avez un choc, vous vous dites ben là, Jürgen Habermas se pose précisément à l'endroit où je veux être, à savoir à la fois un grand sens quand même de l'histoire, des idées, une inscription dans des théories, mais en même temps un désir de mettre des mots sur le monde qui l'entoure.
Oui.
Et donc de le changer. Est-ce que vous pourriez dire quand même pour les auditeurs et auditrices, qui est un peu Jürgen Habermas ? Pourquoi on a dit qu'il était compliqué ? On a entendu dans l'archive qu'effectivement il a travaillé sur des thèses qui semblent assez simples, à savoir sur la discussion, le fait qu'une discussion soit rationnelle, la nécessité d'avoir des débats dans une démocratie pour justement discuter sur ce qui nous paraît être une vie qui est bonne, oui. Les fins pratiques qu'occulte l'économie. Pourquoi il est difficile? Quelle place il représente aujourd'hui? Je précise quand même qu'il est toujours vivant, Jürgen Habermas.
Il est toujours vivant, je crois qu'il a 98 ou 99
ans. Il est né en 29.
Voilà, donc c'est un philosophe allemand. Il est considéré comme le successeur de la première école de Francfort, qui est une école très très intéressante. Il succède par exemple à Adorno et Horkheimer, qui avaient écrit un livre très important en 47, Dialectique de la raison, où il montrait en gros que les Lumières s'étaient retournées contre elles. C'est-à-dire que ces Lumières qui étaient censées nous permettre de sortir de la notre état de minorité et de trouver une forme d'autonomie, la paix perpétuelle, Kant, etc. En fait, c'est retourné en domination sur la nature et en domination sur l'homme. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte, parce que ce texte, il est d'une actualité bouleversante. D'abord, il oppose en effet un monde qui est dominé par l'économie, la technique, l'efficacité, la recherche de la croissance perpétuelle, et d'un autre côté, le monde de la discussion, de la parole, de l'échange, de la communication. Et dans ce texte, il opère un saut très important par rapport à Weber et Marcuse, puisqu'il va opposer travail et interaction. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est d'un côté, il y a la rationalité, la vilaine rationalité instrumentale, où on cherche à être toujours plus efficace. Eh ben, ça, c'est le travail. Et de l'autre côté, il y a l'interaction. Et moi, à l'époque, ça me parle énormément, et c'est pour ça que je vais commencer à réfléchir. J'ai un double objet de réflexion. La place de l'économie dans la société et pourquoi l'économie a pris une place toujours plus grande par rapport à la politique, et d'autre part, le rôle du travail là-dedans. Parce qu'on est aussi au début des années 90, dans une époque où le chômage est en train de se développer considérablement, on cherche des moyens de s'en sortir, et il y a, à l'époque, une apologie du travail. Travail, c'est hyper important. La valeur travail, il faut toujours plus de travail, etc. Alors, ce qui est tout à fait légitime, parce que le chômage, c'est... Mais donc, à l'époque, je vais essayer de me demander pourquoi on cherche à produire toujours plus. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous voyez, ce qui met en évidence, c'est l'intérêt exclusif qu'on accorde à l'augmentation des forces productives. Et moi, j'ai toujours dans l'esprit une phrase d'Aristote qui continue de m'éblouir. Aristote dit... La vie est action, non production. Or, on est là dans nos temps modernes aujourd'hui, on est là-dedans. Il faut produire. Et la production, c'est ce qui est le plus important. La production, c'est ce qui nous tient ensemble. Durkheim dit bien ça. Voilà. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire à l'époque, pas encore tout à fait, mais j'ai envie d'écrire pour expliquer pourquoi on a complètement perdu cette idée de la cité, de la société qui est quand même un tout, une société bien liée. C'est une société où les gens se parlent, où ils délibèrent, où ils discutent sur les fins, etc. Est-ce qu'on pourrait pas rapatrier ça, réacclimater les valeurs grecques dans nos temps modernes.
Avec, effectivement, en gommant quand même les défauts...
Bien sûr, c'est ça. Absolument.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, Dominique Méda, moi j'ai grandi dans les années que vous décrivez, dans les années 90, donc moi j'ai entendu énormément de choses sur, effectivement, la valeur travail, le chômage, la menace suprême du chômage. Maintenant, on est dans une époque où, grâce à l'écologie, on va aussi revenir quand même sur cette productivité à tout va. Est-ce que vous trouvez que, sans qu'on Habermas, ces idées, ces thèses d'Habermas quand même qui questionnent la manière dont on débat, qui questionnent en fait cette productivité intense, ne sont pas quand même diffusées à travers entre nous.
Je crois pas. Franchement, je crois pas.
Ah, vous êtes pessimiste alors ?
Je sais pas, mais en tout cas, il y a tout dans ce texte. D'une manière plus générale, je trouve qu'il y avait tout dans les années 70. Les années 70 ont produit des critiques.
Et depuis, ce qu'elles ont produit dans les années 70, ces critiques sont toujours valables. On n'a pas évolué, on n'a pas changé.
Ces critiques, elles sont toujours valables. Il faut qu'on relise le rapport Meadows de 72. Il faut qu'on relise la lettre Mansholt, le vice-président de la Commission européenne qui dit « Oh là là, regardez ce rapport Meadows. Il faut qu'on fasse bifurquer l'Europe vers la transition écologique et que l'Europe devienne le premier, il dit ça en 72, et tout le monde lui tombe dessus, parce qu'il dit il faut avoir une croissance zéro, une croissance négative. Tout le monde lui tombe dessus, et aujourd'hui c'est pareil. Moi j'ai beaucoup travaillé sur justement la croissance, la critique du PIB, la critique de la croissance, etc. Mais tout le monde m'est tombé dessus aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, petit 1, l'idée qu'il faut que chacun... Bah, c'est pas ça. C'est pas qu'il faut que chacun ait du travail. C'est pas ça. C'est la valeur travail, très, très important, et la croissance. On doit perpétuellement nourrir les feux de la croissance parce que... On ne se dit même pas parce que et pourquoi. Et donc quand vous dites...
Oui, c'est une nécessité.
Mais c'est une évidence. Mmh. Et donc quand vous remettez en cause cette évidence, qu'on va vous dire, bah oui, mais s'il n'y a plus de croissance, alors il n'y a plus d'emploi, donc tout se tient en fait. C'est une configuration moderne dans laquelle tout se tient. Il faut consommer, c'est un devoir social. Dans la comptabilité nationale, vous avez deux moteurs de la croissance, c'est l'investissement et la consommation. Donc faut consommer, faut avoir de la croissance pour avoir de l'emploi, pour... Bah pourquoi, je ne sais pas. Mmh.
Donc on ne discute pas de ces fins-là.
On ne discute pas.
On le fait.
Exactement. Et c'est ça qui m'avait frappée. Et vous voyez, c'est ça mon choc. C'est que j'arrive dans cette école, qui est une école très prestigieuse, l'école des décideurs publics quand même. Et il n'y a pas d'esprit critique, à l'époque au moins. Mmh. Je pense que c'est un petit peu en train de changer. Il n'y a pas d'esprit critique, c'est-à-dire on nous assène ça comme des évidences. Il faut de la croissance, il faut être plus compétitif, il faut...
On va écouter tout de suite un extrait donc de ce texte, La technique et la science comme idéologie de Jürgen Habermas.
Dans la mesure où l'activité de l'État vise à la stabilité et à la croissance du système économique, la politique prend un caractère négatif. Elle oriente son action de façon à éliminer les dysfonctionnements, à éviter les risques susceptibles de mettre le système en danger. Et non pas de façon à réaliser des finalités pratiques, mais à trouver des solutions aux questions d'ordre technique. La politique de type ancien était tenue de se déterminer par rapport à des buts pratiques, ne fût-ce qu'en raison de la forme de légitimation qui était celle de la domination. L'idée d'une vie bonne faisait l'objet d'interprétations qui étaient tournées vers des relations d'interaction. En revanche, la programmation de remplacement qui prévaut aujourd'hui ne concerne plus que le fonctionnement d'un système faisant l'objet d'un guidage. Elle évacue les problèmes d'ordre pratique et avec eux, par conséquent, la discussion concernant l'adoption de critères qui ne deviendraient accessibles qu'avec la formation démocratique d'une volonté politique. La solution des problèmes techniques échappe à la discussion publique. C'est pourquoi la nouvelle politique de l'interventionnisme étatique exige une dépolitisation de la grande masse de la population.
Extrait de La technique et la science comme idéologie, traduit de l'allemand par Jean-René Ladmiral, lu par Nicolas Berger. Jürgen Habermas, dans ce cinquième chapitre de cet essai qui compte à peu près 70 pages, je l'ai dit, Dominique Méda, voilà, dans cet extrait, on entend bien la dimension négative qu'a pris la politique, qu'a pris l'État. En lisant ce texte, quand j'ai su que vous vouliez parler d'Habermas, j'ai eu très peur, Dominique Méda, parce qu'effectivement, c'est quand même un peu jargonneux. C'est effectivement l'école de Francfort, il y a la traduction. Et je me suis vue, vous pouvez regarder mon livre, voilà, j'ai corné toutes les pages, dont ce texte-là. Donc je suis ravie que vous l'ayez choisi. Et effectivement, parce qu'il est d'une actualité sur cette description d'un État politique qui n'est là que pour compenser, guider, éviter, mais jamais proposer, c'est quand même, enfin, c'est assez fou.
Ah, mais c'est un texte qui est absolument lumineux. C'est pour ça quand vous m'avez demandé de réfléchir à un texte, bon, c'est même pas tout le texte qui m'intéresse. Moi, c'est ça, c'est cet extrait-là qui, j'y pense presque tous les jours.
C'est vrai?
Ouais. Exige la dépolitisation de la grande masse. Je trouve ça fabuleux. On fait de l'économie, l'économie a pris toute la place. On essaye donc de suivre des recettes, mais parallèlement, on n'a plus jamais de grandes discussions politiques sur les fins qu'on pourrait poursuivre ou qu'on voudrait poursuivre. Bah, typiquement, sur cette question, par exemple, de la sobriété, de l'écologie. Quand est-ce qu'on arrête de détruire la nature? Quand est-ce qu'on arrête d'aller vraiment vers l'abîme, là, avec tout ce qui est en train de se passer? Bah, ça, on pourrait en faire une grande discussion avec des arguments. Hein. Ce qui est intéressant chez Habermas, c'est que, il dit, c'est peut-être là qu'il est trop optimiste, on est encore capable de se parler, d'échanger des idées et d'aboutir à un résultat. Peut-être que ça, même ça, c'est fini, en fait.
Oui, vous êtes extrêmement pessimiste parce que moi, je me suis demandé si Habermas, à l'inverse, n'était pas trop manichéen. C'est-à-dire que la distinction qu'il met en place entre un État traditionnel, les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, sociétés traditionnelles dans lesquelles on distinguait bien la politique de l'économie, l'activité donc communicationnelle de l'activité rationnelle, alors que les sociétés mondaines vont tout confondre, c'est une manière quand même de schématiser l'interaction dont il parle n'a pas disparu dans l'espace privé, par exemple, Dominique Méda. Si on n'a plus de discussions publiques, comme il le dit dans l'extrait, on a quand même des discussions privées. Ce sont quand même des questions qui nous animent. Comment j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie d'allier une certaine croyance religieuse, par exemple, avec avec le lieu où je vis, avec mon travail? Ça, c'est des questions qui se posent quand même pour les individus.
Alors, vous avez parfaitement raison, mais ça suffit pas du tout. En effet, la discussion s'est repliée sur l'espace privé. Et
alors, donc les interactions n'ont pas disparu, mais c'est juste qu'elles ne sont plus de l'ordre du politique, c'est ça?
Oui, alors, non mais vous avez raison de dire que Habermas, il est beaucoup trop schématique, manichéen, oui. En effet. Et peut-être on y reviendra, mais aussi sur cette histoire de travail et interaction. Oui. Parce que moi, je me suis saisie de ça, en fait, donc je reviens à ces oui. années 90. Je lis énormément, et donc ce dont j'ai envie, c'est d'écrire un livre qui expliquerait pourquoi a eu lieu ce grand basculement. Et au sein de ça, je veux parler du travail. Et donc, ça sera mon premier bouquin qui s'appelle « Le travail, une valeur en voie de disparition », sans point d'interrogation, dans lequel j'essaye d'expliquer. Finalement, mon objet, c'est plus l'économie que le travail. Et justement, j'essaye de critiquer la pensée contractualiste qui s'est développée. C'est-à-dire, on a des homo economicus qui sont posés les uns à côté des autres, qui poursuivent leur petite fin. Et puis, on se dit que tout ça mis ensemble, ça nous donnera certainement une vie collective. C'est-à-dire qu'on ne se considère plus comme une société qui aurait un bien propre et qui devrait réfléchir sur son bien. Et c'est ça que je critique. Et donc, à un moment, je dis réinventer la politique, sortir du contractualisme, sortir de l'économicisme de nos sociétés pour remettre du débat général sur le fait que on est une société, comment on vit ensemble, c'est quoi nos biens communs, c'est quoi ce bien propre de la société. On n'est pas que des individus. Et on n'est pas que des individus qui passons des contrats, c'est pas vrai.
Mais ça, comment on le fait? Puisque dans le texte de Dominique Méda, il y a deux choses. Il y a la dépolitisation des masses, donc il y a cet état d'esprit que vous décrivez des individus, mais il y a aussi l'État. Et il y a presque un sens historique à ce que décrit Habermas en parlant de société traditionnelle et de société moderne. La modernisation fait qu'il y a une confusion entre l'économie et le politique. Là, on le lit dans le texte, mais en fait, que fait l'État? On a envie de dire, que fait l'État? Et en fait, est-ce vraiment aux citoyens, aux individus privés de générer des discussions public et politique, mais quand l'État n'est que là pour
vous avez
compenser.
Absolument raison. D'où l'idée d'Habermas, qui est que l'État devrait avoir un rôle majeur, qui est de mettre la société en débat, en discussion, maintenir une délibération permanente, mettre en place les conditions de cette délibération. Or, c'est absolument pas ce qu'il fait. Là, il enlève les petits obstacles au bon fonctionnement économique de la chose. Et donc, si je reviens d'un mot, il y a aussi cette histoire entre travail et interaction. Je vous le dis d'un mot. Oui. Donc, j'écris ce bouquin dans lequel je raconte le concept de travail, l'économie a pris toute la place, et le travail, mon idée c'est de dire que le travail a été emporté par cette logique économiciste
et rationaliste,
exactement. Ouais. Et donc je reprends cette idée d'Habermas qui a d'un côté le travail qui est empêtré dans la rationalité instrumentale et de l'autre côté l'interaction. Et là, c'est un bouquin qui a fait beaucoup de débats parce que j'avais pas mis de point d'interrogation à la fin. Donc, je disais le travail, une valeur en voie de disparition.
Et, là, je vois sur l'édition, vous avez donc rajouté.
Ah, j'ai rajouté un point d'interrogation. Ouais. Parce que c'est vrai que le titre ne disait pas ce qu'il y avait dedans. Mon idée, c'était, il faut. Très habermasienne et gortzienne aussi parce que
d'André Gortz,
c'est passionnant. Dans les années 80 et 90, il y a un échange entre les Allemands et les Français, entre Gortz et Habermas et Klaus Hofer, etc. Sur cette idée de travail. Et par exemple, il y a plein de philosophes allemands qui disent le travail est en train de disparaître. Habermas lui-même en 85, il dit la disparition de la société fondée sur le travail. la disparition évidente de la société fondée sur le travail. Et donc, moi, les sociologues me tombent dessus en me disant « mais c'est pas vrai que le travail ait une valeur en voie de disparition. Et c'est pas vrai qu'on peut opposer d'un côté le travail qui serait mort, en quelque sorte, où il se passerait rien, où il y aurait pas de dialogue, et de l'autre côté, la jolie interaction dans la politique, etc. » Et là, ça me fait réfléchir, et c'est là que je vais passer de la philosophie à la sociologie, en me disant, ouais, c'est vrai, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans le travail, parce que certainement qu'il y a aussi de l'échange, de la parole, de la discussion, de la délibération.
Oui, le travail n'est pas à abolir ou à évacuer, au nom d'Habermas qui disait qu'il n'y avait que de l'activité rationnelle et donc aliénante, instrumentale.
Voilà, mais ça sera un débat très intéressant dans les 30 années qui vont suivre, hein, parce que...
Mais quand vous lisez Habermas, en fait, c'est ça qui est intéressant, Dominique, c'est que vous ne savez pas que ce texte, il va vous prendre en fait 30 ans.
Bah bien sûr.
Et encore maintenant d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc qu'est-ce qu'il dit à Habermas? En gros, il dit il faut réduire radicalement la place du travail pour augmenter la place de l'interaction. Et moi, je reprends ces idées-là qui sont aussi les idées de Gorz. Gorz va encore plus loin, il dit le travail est devenu complètement hétéronome, il faut réduire sa place. Et donc je dis réduisons sa place, augmentons la place laissée à la délibération politique. Et on est en 95, c'est aussi le moment où toutes les idées de réduction du temps de travail arrivent. Et donc, je suis prise comme ça dans le débat très actuel sur la réduction du temps de travail.
On va y revenir avec un deuxième texte, Dominique Méda. Mais avant ça, j'aimerais quand même revenir sur cet extrait-là qu'on a entendu. Parce qu'il y avait presque quelque chose de jouissif à lire, de si bien décrit ce qui se passe actuellement quand, par exemple, aux discussions qu'on a à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ou quand on entend des dirigeants et des dirigeantes politiques, quand Habermas nous dit « en fait, l'État n'est que là pour compenser, pour éviter les dysfonctionnements et non pas pour discuter, pour proposer », c'est une charge. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, c'est quand même violent contre l'État, c'est extrêmement juste, mais comme en fait c'est la langue d'Habermas qui n'est pas non plus en fait un chantre du lyrisme, et ben ça passe bien.
Oui, je suis d'accord. Et en fait, ce que nous dit ce texte, c'est qu'on est passé dans un autre monde, le monde de Benjamin Constant, et le monde dans lequel les opinions sont tellement différentes qu'on ne pourra jamais mettre les gens d'accord. Et donc, il vaut mieux dériver les passions vers l'économie. Je crois que c'est ça que ça dit, hein. C'est-à-dire la politique, c'est trop compliqué, les individus ne s'entendront jamais, donc on va plutôt... C'est aussi un petit peu ce que raconte Louis Dumont. C'est très dangereux de laisser les individus se disputer sur la politique. On ne sait jamais comment ça va se terminer. Donc, on va plutôt dériver les passions vers l'économie. Et l'économie, c'est ce qui permet, en effet, d'attiser les passions. Les gens vont avoir envie de s'enrichir, de consommer toujours plus, de produire
Mais
plus.
Mais des passions individualistes et non pas contre l'autre ou polémiques, on va dire.
Exactement.
Mais d'une certaine manière, quand même, Habermas, de ce côté-là, est extrêmement violent et décrit aussi quand même comment le débat... c'est pas... On a peur des disputes entre citoyens, mais on a surtout peur, en fait, que les citoyens, tout à coup, en fait, fassent des remarques qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on leur confisque aussi une certaine forme du débat sous prétexte qu'il serait trop technique. Ça, c'est exactement ce qu'on entend sur les retraites. Bien Souvenez-vous sûr. Des députés qui disent « on a mal expliqué, on n'a pas été assez pédagogique ». Et effectivement, les retraites, c'est comme un débat qui nous semble éloigné, compliqué, trop technique. C'est la technocratie, en fait.
Tout à fait. C'est là aussi que je reviens à l'ENA. C'est-à-dire qu'on forme des gens qui vont être spécialisés, c'est exactement ce que dit Habermas, qui vont être spécialisés dans la gestion de ces questions très techniques, qui sont devenues trop techniques pour les citoyens. Et c'est aussi pour ça qu'on est obligé de dépolitiser la grande masse, parce qu'elle ne peut pas comprendre ça. Et il va falloir laisser le soin à des experts de prendre ces décisions.
Donc double confiscation finalement.
Tout à fait.
Par peur du conflit et par peur de la complication.
Exactement.
On va écouter tout de suite, Dominique Méda, un autre texte d'Habermas, et effectivement qui est beaucoup plus centré sur le travail, comme vous avez commencé à l'évoquer.
L'idée selon laquelle les travailleurs devaient se gérer eux-mêmes est encore celle qui inspirait le mouvement de contestation à la fin des années 60. Et en dépit de toutes ces critiques à l'encontre des premières formes de socialisme, c'est encore néanmoins à la même utopie spécifique à la société du travail qu'obéit Marx. Aujourd'hui, l'utopie qui se rattache à la société du travail a épuisé sa force de conviction. et pas seulement parce que les forces productives ont perdu leur innocence, ou parce que l'abolition de la propriété privée des moyens de production ne débouche manifestement pas percée sur l'autogestion des travailleurs, elle a surtout perdu son point de référence dans la réalité, qui était en l'occurrence la capacité qu'avait le travail abstrait à forger des structures et à donner sa forme à la société. L'incapacité que nous éprouvons désormais à prendre la mesure de la réalité vient de ce que nous sommes dans une situation où les projets d'État social continuent de se nourrir de l'utopie propre à la société du travail, perdant ainsi leur capacité à ouvrir des possibilités d'avenir en vue d'une vie collective meilleure et moins menacée.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Un autre texte d'Habermas qui apparaît dans ses écrits politiques. Ce texte s'intitule « La crise de l'État providence ». Il y est évoqué ce que vous avez commencé à aborder. Dominique Méda, non, vous n'avez pas été trop vite, ne vous inquiétez pas, ce sont vos sujets de recherche. Ce texte, c'est quoi? Ça dit quoi?
Alors,
ce texte, La crise de l'État-providence, d'où est extrait ce qu'on vient d'entendre.
C'est vraiment un texte très, très, très intéressant qui dit très clairement, je trouve, les choses. Ce que dit Habermas, c'est longtemps, la société a été structurée par le travail et elle l'a tellement été et le travail a pris tellement de place qu'en fait, toutes les utopies se sont concentrés sur la libération du travail, c'est-à-dire sur l'idée qu'on allait pouvoir rendre le travail vraiment libérateur, émancipateur. Et il critique Marx parce que il pense que Marx, c'est celui qui, à la fois, critique le salariat, le travail aliéné, etc., mais pense qu'on va pouvoir libérer le travail et rendre le travail radicalement émancipateur. C'est aussi un texte qui m'a énormément inspiré et évidemment, ça me fait penser à un autre texte de Marx, le jeune Marx de 1844, qui dit « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, c'est-à-dire pas comme des animaux, nos productions seraient autant de miroirs où nos âmes seraient tournées l'une vers l'autre. » Je trouve ce texte extraordinaire.
Attendez, redites-moi la phrase que je comprenne bien.
« Supposons que nous produisions comme des êtres humains, nos productions seraient autant de miroirs où nos âmes rayonneraient l'une vers l'autre. » Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais.
Ça veut dire que si je produis différemment, si je produis en faisant en sorte que ce que je fabrique, ça montre parfaitement qui je suis, ma singularité.
Ouais.
Eh bien, en vous montrant mon produit, je vous montre qui je suis. Donc le travail, ça devient le média absolument essentiel, nécessaire. C'est lui qui non seulement va me permettre de déployer radicalement mon activité, mais en plus, grâce à ça, je vais organiser la médiation sociale par excellence, c'est-à-dire je vais vous montrer qui je suis. On n'aura plus qu'à s'échanger. En fait, avec les produits qu'on aura fabriqués, on s'échangera des images de nous-mêmes. On n'a même plus besoin de se parler, tiens.
Oui, j'ai juste besoin de voir vos livres.
C'est ça.
C'est ça, Dominique Méda.
C'est ça. Et ce que dit Habermas, c'est attention. Il faut pas, c'est pas parce que le travail a occupé cette place, et surtout, c'est pas parce que le travail a été insupportable au 19e siècle, qu'il faut penser que la libération, elle viendra de la transformation du travail lui-même. Et moi, dans mon bouquin, je reprends exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire, je dis, non. Et là, il y a aussi Gorz qui joue un rôle très important en France.
Vous pouvez nous présenter André Gorz aussi et voir les filiations avec Habermas?
Oh là là. C'est
parce que c'est quand même quelque chose pour Habermas et Gorz de s'opposer dans les années 70-80 à une figure extrêmement forte et puissante qu'est Marx et qui est vraiment quand même le penseur, philosophe, historien, économiste du travail.
Tout à fait. Alors, je vous raconte un tout petit peu ma vie. Moi, je découvre Marx. Je trouve ça évidemment absolument génialissime. Je vais à plein de... Je lis des revues à l'époque vraiment passionnantes. Actuel Marx, très très intéressant parce que ça nous donne un Marx actuel. Ben oui, ça s'appelle Actuel Marx. Futur antérieur, 1980.
Moins lisible comme titre de revue.
Oui, c'est vrai, mais extraordinairement passionnant. En 93, il y a deux numéros spéciaux sur le travail, avec des textes notamment de Jean-Marie Vincent. C'est absolument fascinant. Et donc, je travaille beaucoup ces textes-là. Je suis très attirée à un moment par Marx. Et puis justement, je vais tomber du côté Habermas-Gorz, parce que je trouve que Marx... Il croit trop, en effet, qu'on pourra transformer le travail. Et puis, il croit trop. Bon, il y a tout un débat aujourd'hui. Hein, est-ce que Marx était productiviste ou écologiste, blablabla. Bon, quand même, il croit aux forces, au déploiement des forces productives. Et c'est ça que critique Habermas et Gortz aussi. Hein, c'est-à-dire cette idée que on va continuer à produire. Et puis, on va pouvoir surtout transformer le travail. Et donc, en gros, à partir de ce moment-là, et c'est très intéressant pour le débat d'aujourd'hui, il y a en quelque sorte deux voies. Il y a ceux qui disent il faut libérer le travail, c'est-à-dire tout faire pour que le travail devienne épanouissant, et ceux qui disent il faut se libérer du travail, et donc il faut réduire la place qu'occupe le travail dans la vie sociale et dans la vie individuelle. Et moi, je vais, dans un premier moment, pendant une dizaine d'années, je vais être de ce côté-là, de ce deuxième côté, du côté Habermas et Gortz, c'est-à-dire,
réduction du temps de travail, les 35 heures, par exemple.
Le travail est devenu tellement spécialisé, on est dans une société qui veut tellement être efficace qu'on n'arrivera pas à le transformer. Ne me dites pas qu'on pourra à la fois être super efficace et puis épanoui dans son travail. Et c'est un débat qui est très important aujourd'hui, parce que par exemple, si je prends le juriste Alain Supiot ou je prends le syndicaliste Bruno Trentin, ils vont critiquer ce type de pensée en disant « ça ne va pas du tout ce que vous avez fait, vous avez laissé se dégrader les conditions de travail » en disant qu'on pouvait réduire le travail.
Et rien n'y faire, et que de toute façon le travail est fichu.
Exactement. Et ce débat-là, il a traversé les 30 dernières années, et aujourd'hui, moi j'ai changé, j'ai changé aussi en découvrant après, en faisant des enquêtes sociologiques, que oui, le travail prenait beaucoup, avait beaucoup d'importance pour les personnes.
Reconnaissance, on va y revenir avec Axel Honneth, mais aussi de libération pour les femmes, par exemple.
Exactement. Donc, voilà, en devenant sociologue, en quelque sorte, j'ai un peu changé d'avis. Alors, je ne vous dis pas que j'ai complètement changé d'avis et que je pense que le travail peut devenir totalement épanouissant. Mais je suis dans une position plus mitoyenne où je vois aussi qu'on ne s'est sans doute pas du tout assez occupé du travail et de l'amélioration des conditions de travail. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir cette utopie de « Ah bah le travail, ça va devenir le tout épanouissement. »
C'est-à-dire ni l'un ni l'autre, il faut essayer d'être un petit peu juste. Mais ça pose quand même cette question très intéressante de l'essence du travail.
Oui.
Est-ce que le travail, par essence, est aliénant? Est-ce que tout travail est aliénant?
Non, mais alors là, je pense qu'il faut être un peu, là aussi, un peu nuancé. Il y a un texte de Jem Galbraith que j'aime énormément.
Un
économiste américain. Il a écrit « Vérité et mensonge de l'économie ». Et là, il y a un petit passage extraordinaire où il dit « Bon, alors tout le monde nous parle du travail, mais il y a un énorme paradoxe dans le travail. On nous dit « Le travail est épanouissant, le travail est formidable ». Mais il dit « On ne peut pas confondre, on n'a pas le droit de confondre le travail d'un certain nombre de personnes qui est épuisant, mal payé, aliénant, et le travail d'autres personnes qui, non seulement est intéressant, épanouissant, mais qui en plus est très bien payé. Donc, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est un mensonge d'utiliser le même mot pour décrire des choses tellement différentes.
Alors, quel mot on pourrait utiliser selon vous ?
Oh ben là, vous me posez des questions très compliquées. Alors, non, mais il y a eu tout un débat à une époque sur la question de l'activité. C'est-à-dire, alors, moi je finissais mon bouquin en 95 en disant, voilà, on a une... Il y a une gamme entière des activités humaines très diversifiées, les activités productives, les activités politiques, les activités de développement personnel, etc. Il faut que chacun accède à la gamme diversifiée de ces activités. Et donc, j'appelais ces activités des activités productives.
On va écouter la voix d'Axel Honneth qui nous permet de dépasser justement Habermas tout en continuant quand même, parce que Axel Honneth est un disciple d'Habermas, à le lire et à le reprendre.
Les sociétés s'établissent à travers les luttes pour la reconnaissance, entre des groupes en lutte pour le respect de leur propre conscience. C'est l'idée originale de Hegel que j'ai développée pour forger un concept de société qui me permet de montrer que notre société, comme toutes les sociétés, est organisée autour de ce que j'appelle des sphères de reconnaissance, ce qui signifie qu'elles incluent leurs membres en établissant des sphères dans lesquelles les membres ont la possibilité d'accéder à une reconnaissance mutuelle. De ce point de vue, je crois que j'essaye d'élaborer sur cette idée de la tradition de Frankfurt. J'essaye de la développer avec d'autres instruments et d'autres moyens. C'est aussi se départir d'Habermas qui restreint trop son modèle à un certain niveau seulement de ses formes de relations, le niveau du respect de soi qui peut découler de formes de communication.
La voix d'Axel Honneth, c'était le 2 janvier 2010 dans l'émission de Sylvain Bourmeau, La suite dans les idées sur France Culture, avec la voix de Georges Kless qui traduit donc les paroles d'Axel Honneth. Axel Honneth qui fait deux critiques, Dominique Méda, à Habermas. La première, on l'a entendu, c'est effectivement que Habermas ne voit pas le travail comme une interaction. Il oppose trop les deux. C'était ce qu'on évoquait au début sur la dimension manichéenne, oui, peut-être, de sa vision. Et puis l'idée, en fait, qu'il ne prenne en compte que des sentiments du type respect de soi et non pas reconnaissance par l'autre. Et c'est vrai que si on pense à des textes très importants dans l'histoire des idées, comme ceux de Simone Veil sur la grève, on voit bien que le travail, et même à un moment donné revendiqué, se battre pour ses droits de travailleurs, sont des lieux d'interaction et non pas que de rationalisation.
Totalement d'accord, et c'est là Honneth nous a fait, m'a fait bouger aussi. Enfin, il fait partie de ces auteurs qui m'ont beaucoup apporté. Donc, je vous disais, après ce bouquin, moi, je vais faire des enquêtes sociologiques et je découvre en effet, je découvre deux choses. Petit un, que le travail tient une place très importante dans la vie des gens, y compris quand le travail est aliénant ou quand ça va pas.
Que quand les gens ne travaillent pas. Il ne se politise pas forcément.
Oui.
C'est-à-dire que le temps libre n'est pas forcément investi par des associations,
là, non,
des débats.
Énorme déception, en effet. Et c'est marrant.
C'est vrai,
parce
vous y croyez, c'est ça, au début.
Non, mais en fait, on avait eu l'exemple allemand. C'est-à-dire, oui, que l'Allemagne avait réduit son temps de travail bien avant nous. Et il y avait eu déjà des critiques de sociologues qui disaient, bon, est-ce qu'il va y avoir un surcroît d'activité politique? Et puis, ça ne s'était pas du tout passé comme ça. Et donc, Honneth dit un truc très important. Il dit, d'une part, on ne peut pas comme ça dire, il y a le travail où il ne se passe rien d'un côté et l'interaction merveilleuse de l'autre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le travail. Et il dit, il parle aussi de la reconnaissance. Il dit que ce qui se passe dans le travail est très important parce que, c'est un peu ce que disait Marx tout à l'heure, hein, ce que je fais, eh bien, dans ce que je produis, je mets énormément de moi. Donc, j'ai d'une part la vie de moi sur moi, mais j'ai aussi la vie des autres. Est-ce que, c'est-à-dire que les autres vont jeter un œil et m'apprécier à partir de ce que j'ai fait de mon travail. D'ailleurs, il y a un autre sociologue allemand, beaucoup plus récent, Stefan von Zweigbergk, qui dit que le travail, c'est devenu la dernière arène dans laquelle on peut montrer aux autres de quoi on est capable et susciter l'admiration. Et donc, Axel Honneth, il ramène tout ça, et puis il ramène aussi quelque chose qui est absolument essentiel, et que moi j'ai vu tout de suite aussi dans les études que j'ai faites, c'est le fait que quand vous êtes au chômage, vous avez perdu quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce fameux texte aussi de Lazarsfeld et les autres, les chômeurs de Marienthal, qui montrent qu'en 1931, il y a une petite ville autrichienne où l'usine ferme, et là, c'est le chaos généralisé. C'est-à-dire, les gens perdent le sentiment du temps, etc. Donc, Honneth dit, il ne faut pas perdre ce que l'expérience du chômage amène. C'est une expérience morale qui nous montre que le travail, c'est plus important que ce qu'on pensait. Et alors, il est sur une sorte de ligne de crête, parce qu'à la fois, quand même, il critique son maître. Il dit, non, Habermas a été beaucoup trop loin. Mais il dit, en même temps, on ne peut pas revenir en arrière sur le travail fantastique sur le nettoyage catégoriel de la notion de travail qu'a fait Habermas. Donc, on va être entre les deux, et on va dire à la fois que le travail ne peut pas devenir complètement épanouissant, mais le travail, c'est très important.
J'aimerais qu'on revienne sur un point, Dominique Méda, c'est le titre du texte que vous aviez choisi d'Habermas, c'est « La technique et la science comme idéologie », entre guillemets. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Est-ce qu'elle peut être combattue parce que la technique et la science sont présentées par Habermas, et donc le travail comme contaminé presque comme une nécessité. On a parlé d'évidence, par la rationalité instrumentale. Mais ouais. Si c'est une idéologie, le principe des idéologies, c'est qu'elles peuvent être combattues par d'autres arguments ou alors pas du tout. Voilà, je me trompe complètement de définition.
Vous avez raison. Et donc cette idéologie là, donc c'est une croyance. Hein, c'est une croyance qui a été construite et il nous dit que ça nous permet de légitimer tout ce qui se passe. C'est-à-dire avant, les décisions étaient légitimées par la discussion. Maintenant, on n'a même plus besoin de discuter, c'est légitimé par le fait qu'on sait que c'est comme ça, c'est ça qui est bien. Alors, est-ce qu'on peut la combattre ? Oui, c'est ce qu'a essayé de faire Habermas toute sa vie, en fait. Hein.
Surtout si, au vu de ce que vous avez dit à partir de votre lecture et des études que vous avez suivies sur le travail peut être aussi un endroit de prise de conscience de ces inégalités et donc des conséquences peut-être néfastes qu'a la science,
tout
qu'a
à
la
fait.
Science et la technique.
Et dans les débats qu'on a eus à l'époque de la publication de mon bouquin, on a eu énormément de discussions et de débats entre scientifiques, mais aussi politiques, etc. Il y avait bien cette idée que ça devait nous amener à agir, ce constat que faisait Habermas. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Comment est-ce qu'on allait changer le travail ? Est-ce qu'on allait simplement changer les conditions de travail ? Est-ce qu'on allait... Et je fais un saut dans le temps, pour en venir à un bouquin très récent qu'on a écrit avec deux autres collègues, Julie Batilana et Isabelle Ferreras, et qu'on a appelé Manifeste Travail, démocratisé, démarchandisé, dépollué. Et dans ce livre, nous prenons une profonde démocratisation du travail. Vous voyez, on boucle un peu la boucle, c'est-à-dire que c'est pas vrai qu'il se passe rien dans le travail, mais quand même, le travail reste un lieu de subordination où les gens ont très peu accès à la parole. Et alors moi, dans toutes les enquêtes que j'ai faites, c'est ça que j'ai vu, des gens qui ne peuvent pas s'exprimer et sur lesquels on fait tomber des décisions sans qu'ils puissent rien dire, y compris quand ça concerne leur travail. Et la France, de ce point de vue-là, est très, très, très mal placée. Et donc, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut absolument démocratiser le travail, démocratiser l'économie.
Et puis, il y a quand même aussi cette question dans le travail, c'est-à-dire que est-ce que le travail... En fait, moi, la question que je me pose, c'est comment on peut se débarrasser d'une idéologie ? Dans la mesure où une idéologie, c'est effectivement une croyance qui ne se justifie jamais, qui dit « c'est comme ça ». Et dans le texte d'Habermas, il y est dit, c'est toujours un extrait de La technique et la science comme idéologie, il dit ceci à propos de la contamination du langage, évidemment, puisqu'il travaille sur la communication démocratique, ça l'intéresse hautement. Il dit ceci, la nouvelle idéologie, donc celle de la science et la technique, porte par conséquent préjudice à un intérêt qui est lié à l'une des deux conditions fondamentales de notre existence culturelle, autrement dit, au langage, ou plus exactement, à la forme de socialisation et d'individuation telle qu'elle est déterminée par la communication établie dans le langage courant. Est-ce que nos manières de parler... Et ça passe par des trucs aussi absurdes que d'avoir adopté des petits éléments de langage de manager, vous voyez ? Je te réponds à SAP, qu'est-ce qui s'est dit à la Réu, des choses comme ça. Est-ce qu'en fait, voilà, la diffusion de l'idéologie nous permet-elle de nous en débarrasser ?
Alors, comment se débarrasse-t-on d'une idéologie ? À mon avis, il y a deux solutions, soit par la révolution, c'est-à-dire on change les choses, un petit groupe de personnes, ou un gros groupe d'ailleurs, de personnes veulent lutter contre cette idéologie, décident de prendre le pouvoir et de remplacer une idéologie par une autre, ou bien on considère que la raison va pouvoir triompher, le dialogue, c'est ce que pense Habermas, et donc on va discuter, on va montrer les effets négatifs, c'est un peu ce qu'il fait dans ce texte, il montre les effets négatifs de cette extension du pouvoir de la science, de la technique et de l'économie. Parce que, dit-il, et là il reprend les grandes thèses de l'école de Francfort, ce processus se retourne en domination de l'homme sur la nature, on bousille la nature, et de l'homme sur l'homme. On considère l'homme comme du papier à mâcher dont on peut faire n'importe quoi. Et donc, son idée, c'est qu'en discutant, en échangeant des arguments, on va pouvoir se rendre compte de ses effets négatifs et peut-être changer. C'est pour ça qu'en gros, c'est un social-démocrate. Il a après écrit énormément sur la nécessité de construire l'Europe, de faire l'Union européenne, et surtout de libérer un espace public dans lequel on pourrait discuter justement de la forme que ça prendrait. Bon, vous allez me dire aujourd'hui, c'est pas exactement...
Oui, je le dirais aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui est assez fou avec l'école de Francfort et ses disciples ou critiques, parce que Habermas s'en est aussi détaché par la suite, c'est qu'ils sont à la fois plus concrets et en même temps un peu naïfs. Parce que moi, je veux bien discuter, mais si le langage est contaminé, si on m'écoute pas, si j'ai pas de lieu, si ça n'a pas d'effet, je préfère rester chez moi.
Oui, bon, est-ce qu'ils sont naïfs? Ils ont vécu quand même, ils ont vécu des sacrées choses, hein, l'école de Francfort. Je veux dire, ils ont été obligés de s'exiler avec le nazisme. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont existé tout au long du XXe siècle. Hein, ils ont été chassés. C'est une école qui est créée très très tôt.
Qui revient en Allemagne, qui renaît, se reconstruit. Ouais.
Et ce que je trouve passionnant, c'est l'ampleur du champ de leur réflexion. C'est-à-dire, on parle de la politique, on parle de l'économie, on parle de la science. Alors, ça donnera après des gens comme Ulrich Beck. Dans ce petit texte, il y a tout ce qui va suivre après dans les 30 ans. Il y a tous les débats, en fait, en tout petit, qui vont
c'est suffisant
pour...
Pour
changer la vie.
Pour changer un rapport au travail, pour faire en sorte que la description qui reste pertinente, quoique manichéenne, d'Habermas, de la confusion entre la raison instrumentale, la rationalité instrumentale et l'activité communicationnelle. Et là, cette rationalité, donc plus rationnelle, voilà, c'est complètement confondu. Ouais. Est-ce que ça suffit? En fait, est-ce que le débat, est-ce qu'en fait en parler, est-ce que faire des émissions comme ça, est-ce qu'écrire des chroniques, des livres, voilà, déjà vous avez l'impression que ça porte, ça ouvre.
Alors, j'ai envie de vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Moi, je continue à espérer ça, que ça porte. Alors, je sais bien que on ne parle qu'à des gens qui ont déjà envie de savoir. Je pense que Habermas, c'est ce qu'on a critiqué dans sa pensée, hein. Il a été sinon naïf, mais au moins trop confiant dans les vertus du dialogue, en effet. Mmh. Peut-être qu'il n'a pas fait assez de place au conflit, à la nécessité de prendre le pouvoir. Peut-être, aux conflits sociaux, aux manifestations, aux mouvements sociaux. Pourtant, il les a soutenus, aux effets de groupe
aussi, hein, où effectivement, c'est pas forcément la raison qui peut l'emporter, mais aussi la passion.
Absolument. Si on est très, alors, moi, je dirais que moi, je continue à croire au dialogue, aux partis politiques, à la nécessité d'accéder au pouvoir et d'arriver à changer la vie comme ça, plus qu'à la révolution. Et je vous dirais, alors là, vous allez me dire que je suis d'une naïveté confondante, mais je pense que la manière de s'en tirer aujourd'hui, alors qu'on est pris entre deux empires monstrueux comme ça, qui nous veulent quand même beaucoup de mal, hein, même trois empires, c'est l'Union européenne. C'est vraiment... Et là, je rejoins les derniers moments, les dernières pensées d'Habermas. Hein. Il faut absolument qu'on fasse l'Europe, pas l'Europe telle qu'elle a été faite sur la base de la concurrence, etc. Une Europe solidaire, une Europe avec des liens forts. Par exemple, je suis très inspirée et très d'accord avec ce que peut dire une philosophe comme Céline Spector, qui me semble vraiment...
Une philosophe française, une philosophe spécialiste de Rousseau, Rawls, qui travaille aujourd'hui sur l'Europe.
Et qui nous montre... Alors, elle essaye de démontrer que toutes les critiques que l'on peut faire à l'Europe, on dit souvent, ben, on peut pas faire l'Europe parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle No Demos, dans lequel elle montre qu'un peuple, ça n'existe pas comme ça, ça se construit. Mmh. Voilà. Et elle appelle à cette construction. Et je suis totalement d'accord avec elle. Je pense que c'est ce que nous avons devant nous et qu'on doit se dépêcher. Il y a une course de vitesse qui est engagée entre les gens comme nous qui voulons faire une Europe forte, et les extrêmes droites qui sont en train d'essayer de nous faire revenir à du nationalisme délétère.
Tu croques une rime en belle à souhait. Le choc, quand te réveilles, tu disparais. Tu goûtes, toutes les filles, t'as toujours faim. Tu te défiles dès le matin. Tu aimes rouler des yeux des mécaniques. Tu aimes briser ton charme académique. Tu sais, aux dames de cœur lancées des piques. Tu sais. Toi, je t'aime pas pour tout ce qui fait.
tu veux partir en douce le lendemain. Au mieux, tu t'évapores et tu t'effaces. Et moi, je plains celles qui te suivront à la trace. Tu plais, sous tes sourires, le pire tu caches. C'est laid, tu continues puisque ça marche. Tu plais, le temps d'un verre, tu sais.
Chanson Dominique Méda pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie et votre pensée, donc Habermas, je le répète. Place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi en fait un ensemble qui est la philosophie
oui,
analytique.
Oui, autant faire un prix de groupe.
Voilà. La philosophie analytique. Et en particulier, j'ai des très mauvais souvenirs. Donc, j'étais en spécialité philo quand j'étais à Henri IV et que je préparais l'entrée à l'ENS. Et il y avait Quine. On avait Quine au programme. Et tout cet ensemble de pensées très logiques. Et alors, j'avoue, non mais je sais que c'est très très important, hein, mais moi, j'avais du mal à rentrer dans ces auteurs. C'était très logicien,
logique. Oui, voilà, il y a aussi Frege, par exemple.
Frege, exactement. Et alors, justement, à Normale Sup, on avait la professeure principale, Claude Imbert, était une très grande spécialiste de Frege. Et c'est vrai que j'étais embêtée parce que je n'arrivais pas à comprendre l'ampleur de cette pensée. Et elle nous disait que c'était extrêmement important, Frege et les autres auteurs.
Alors, je pense que vous n'êtes pas seule, car j'ai vécu les mêmes déconvenues avec des notes vraiment, je pense, dépassant à peine le 1 sur 20. Et effectivement, c'est quand même des philosophes. Alors, la philosophie analytique, il n'y a pas question de contester l'importance de son corpus, oui. De ses travaux. Mais effectivement, la logique, c'est très particulier comme sous-discipline, en fait, de l'épistémologie et de la philosophie analytique. Donc voilà, il y a Frege, il y a Quine, vous l'avez cité, mais c'est quand même des philosophes qui ont travaillé sur le langage.
Tout à fait.
C'est paradoxal, parce que vous adorez Habermas, qui lui aussi a travaillé sur ce langage lui-même.
Ouais, mais j'adore pas tout Habermas. C'est un
ah.
peu...
Non, mais... Ah, mais maintenant... Ah, bah...
Voilà, maintenant que c'est la fin de l'émission, je peux le dire.
On aurait pu faire une émission, l'auteur qui a changé ma vie avec cette œuvre, mais que je déteste par ailleurs.
C'est-à-dire, il y a certains textes d'Habermas qui, pour moi, sont lumineux, et d'autres, c'est-à-dire quand ça commence à devenir, en effet, très tourné sur les questions de langage, de normes, etc., je décroche un peu, je vous avoue.
Donc, par exemple,
donc je fais mon choix. Voilà, j'ai fait mon choix. Et dans Habermas, il y a des textes qui me parlent énormément, et puis les autres, bah, ça me résiste un peu. Bah,
la théorie de l'agir comme communicationnel.
Bah, je l'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup appuyée sur...
Vous l'avez lu en entier ? Est-ce que vous pouvez dire que vous l'avez lu en entier ?
Ouais, je l'ai lu, mais je me suis beaucoup aidée du livre, évidemment, de Jean-Marc Ferry, hein, là-dessus, pour essayer de mieux rentrer dans l'œuvre, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a encore des choses qui me résistent, là, franchement.
Merci beaucoup, Dominique Méda. De vous, on peut lire Une société désirable, comment prendre soin du monde, paru aux éditions Flammarion et France Culture aussi, puisque c'est un recueil de vos chroniques que vous avez eu ici sur France Culture. Je signale aussi C'était les années Macron, disponible en chant Flammarion. Et je vois donc sous vos yeux Le Travail, une valeur en voie de disparition, point d'interrogation, en chant Flammarion. Et pour lire Habermas, La technique et la science comme idéologie, c'est disponible en tel Gallimard dans la traduction de Jean-René Ladmiral.
Merci beaucoup pour votre invitation, merci.
Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Alex Dang à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.